I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors, vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire. Mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel. À travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour Isadora, bonjour Cynthia.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Bah, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On est super contente puisque pour pas te cacher, on te suit quand même depuis un petit moment. Et on se disait quand même ce serait intéressant d'avoir Cynthia sur le podcast, mais j'osais pas trop te demander. Je me disais, elle est quand même dans le game, tu vois. J'osais pas te demander de venir. Et au bout d'un moment, Isadora m'a dit... qu'est-ce que tu risques à demander ?
Au pire, elle dit non.
Et ben voilà, c'est non. Ben c'est non. Voilà. Bon, ben c'est non.
Exactement. Vous savez quoi ? C'est exactement ce que je viens de poster dans mes stories il y a 30 minutes.
Ah bon ?
Ouais, qu'on a 0% de chance d'avoir une réponse positive si on ne demande pas. Et que si on demande, on peut avoir une réponse positive. Donc, c'est exactement ma pensée du jour.
Ah, mais ça, c'est trop drôle. Mais en tout cas, ouais, moi, j'étais contente, j'étais fière de moi parce que c'est quelque chose que j'ose pas trop demander en général aux personnes qui m'inspirent ou je me dis non, quand même, je vais pas les déranger, attention. Donc, c'est vrai que c'était contente que tu répondes par la positive. Sachant que avant même de commencer de parler d'alimentation, je voulais quand même qu'on parle quand même de ton compte Instagram parce que tu es pas arrivée comme nous, il y a 7 ans ou comme d'autres, il y a 15 ans, etc. Tu es quand même, entre guillemets, quand même récente dans le game et tu es arrivée. Et t'as tout déchiré.
Grave.
Comment est-ce possible ? Que s'est-il passé ?
T'as mis tout le monde à l'amende.
Donc, je voulais juste savoir, avant juste de commencer à parler d'alimentation, c'est aujourd'hui, comment t'en es arrivée à dire, vas-y, je crée un compte Instagram ? T'es pas non plus une nana qui a 10 ans, 19 ans, 18 ans, 15 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es dit, vas-y, je me lance sur Instagram ?
Ça a été une grosse réflexion. Je me représente pas, hein. Je ne sais pas.
Ah si, je demanderai après quand même. Si, attends, si, j'ai oublié de demander tellement j'ai l'impression que tout le monde te connaît, mais Cynthia K. Non, présente-toi quand même et après je te demande pourquoi tu es venue sur Instagram.
Ok, ok. Je suis Cynthia K, auteure, experte en prévention santé et alimentation naturelle. Et je suis également naturopathe et prof de yoga. Et j'ai monté le compte by Cynthia K il y a un peu plus d'un an. Pour justement faire de la prévention autour de la santé et plus particulièrement du cancer du sein, donc qui m'a touchée personnellement, et également pour donner des alternatives de vie plus saines et surtout très facilement et vraiment démystifier le fait que manger bien et vivre sainement, c'est compliqué. Et je le fais avec mon expérience de naturopathie, mais aussi mon expérience personnelle avec tout ce que j'ai d'ancestralité et la culture camerounaise avec laquelle j'ai grandi.
Comme nous.
Big up au Cameroun. Tu sais, je savais même pas que t'étais camerounaise. C'est quand on a parlé, je sais plus à quel moment, on s'est dit, mais en fait, elle est camerounaise. Mais nous, on ne savait pas. Nous, on est franco-camerounaise.
D'accord, je savais pas. Mais voilà, on avait plein de points communs. Mais
notre papa, il est camerounais. Et c'est drôle parce que nous aussi, quand on a commencé sur les réseaux il y a 7 ans, c'était justement pour démystifier, comme tu dis, cette alimentation santé qui paraissait élitiste pour certains, pour beaucoup de personnes. Et qu'on voulait montrer, en effet, que l'alimentation santé pouvait être vraiment accessible plutôt facilement. Donc non, c'est très intéressant ton parcours. Et du coup, t'es naturopathe,
prof de yoga,
etc.
Tu exerces depuis combien de temps ?
Ça va faire 2 ans que j'exerce la naturopathie, en tout cas la santé naturelle personnellement. Mais j'ai toujours été intéressée par ça depuis que je suis très petite. C'est vraiment un secteur qui m'a tout de suite appelée naturellement. Je pense par mes origines et aussi par ma mère qui nous faisait découvrir toujours beaucoup de plantes, beaucoup de choses à trait à la beauté elle disait « Mais vous avez pas besoin d'acheter ça, regardez, je peux faire ça. » Et c'est très facile, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils sont encore partis inventer ? Et je pense que de là est née une curiosité et aussi j'ai une famille de gens qui lisent beaucoup dès que je voyais en fait un mot que je ne connaissais pas ou quelque chose qui était nouveau, ben en fait je suis tombée vraiment dans un puits sans fond et je pense que c'est ça aujourd'hui ce que je pense que j'ai vraiment commencé à lire sur tout ce qui était plantes, santé naturelle quand je devais avoir 12 ans sans que j'en fasse mon métier mais personnellement je pensais toujours que j'allais arriver vers quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai, je pense, développé ce cerveau. J'arrive à retenir beaucoup d'informations et surtout à associer les informations entre elles. Et je pense que c'est ça qui me donne une facilité à me dire « Ah, attends, j'ai vu ça. Mais oui, mais si ça, ça fait ça, ça fait aussi peut-être ça. » Et je vais continuer à chercher jusqu'à ce que ça fasse sens pour moi et que je puisse le transmettre aux autres.
En fait, tu as une aisance naturelle dans l'apprentissage, je pense. Ce qui fait aussi, comme Marza disait tout à l'heure, que tu es arrivée il y a un peu plus d'un an sur Instagram, et pour beaucoup de personnes de nos grands âges, arriver sur une plateforme, c'est hyper compliqué. Toi, tu es arrivée en déjà maîtrisant les codes. Incroyablement bien d'Instagram. Donc oui, il y a quand même ce côté, une aisance très naturelle chez toi à apprendre et à mettre en place.
Tout à fait. Alors, mon aisance naturelle, je pense qu'elle vient de aussi mes études et de mon parcours professionnel. Parce que moi, j'ai fait un bac ES et une université. Je suis partie étudier en Angleterre, où je suis restée 5 ans. Et après, je suis revenue en France et j'ai travaillé tout de suite dans la mode et dans l'événementiel, notamment. Et quand on travaille dans l'événementiel, en tout cas au poste auquel j'ai eu l'honneur d'accéder, en tout cas j'ai travaillé pour accéder à ces postes-là, c'était des postes avec beaucoup de responsabilités où j'organisais soit des défilés, soit des red carpets, soit des premières de films et de séries avec beaucoup de célébrités, de choses comme ça. On doit manager souvent des équipes de 100, 150 personnes. On doit clarifier l'information très vite, très facilement, très rapidement, et on doit savoir comment identifier qui va faire quoi, à quel moment. Et ça veut dire aussi pouvoir se mettre dans la tête de l'autre personne qui ne parle pas forcément ton langage, mais qui doit comprendre très vite, en fait, une information. Et je pense que j'ai fait ce métier pendant 12 ans. Je pense que c'est ce qui m'aide aujourd'hui à me transposer un petit peu dans le bon. Moi, je comprends la nutrition végétale. Je lis énormément de choses autour de la prévention, d'études, PubMed et tout ça. J'arrive à comprendre l'information. Comment maintenant je peux parler à une Isadora pour qu'elle me comprenne tout de suite et que je la saoule pas et que je puisse enlever le maximum d'informations, peut-être soit trop techniques, soit qu'elle n'a pas besoin d'avoir à ce niveau-là parce qu'elle n'est pas encore à mon niveau et ça viendra peut-être plus tard, pour juste qu'elle garde l'essentiel. Et je pense que c'est ce travail de synthétisation que j'ai dû faire pendant toute mon expérience professionnelle. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis que sans le parcours que j'ai eu dans ma vie professionnelle, je ne serais pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui sur les réseaux, en tout cas avec la même facilité ou en tout cas l'aisance. Et ça m'a énormément apporté. Je pense que c'est comme ça que j'arrive à vraiment synthétiser et à faire passer mon message assez efficacement. Ouais.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ton métier donc, de naturo, c'est un métier aussi que tu fais
en cabinet.
En cabinet ou c'est plutôt sur Instagram ?
Je dois faire une vidéo YouTube d'ailleurs sur le sujet parce qu'on me posait énormément la question, comment je suis devenue naturopathe, comment on fait tout ça. Moi, j'ai fait de la naturopathie en one-to-one pendant 6 mois.
D'accord.
Pas énorme. J'avais une dizaine de clients quand même, mais le one-to-one, c'est pas quelque chose qui m'a plu parce que c'est extrêmement chronophage de la naturopathie et je pense que j'avais aussi une frustration dans la façon dont les gens mettaient en place et pour moi, c'était pas assez rapide. Du coup, j'ai mon téléphone qui a sonné, pardon.
Pas de soucis, on n'a pas entendu.
Du coup, Du coup, j'ai très vite été, j'ai pas envie de dire embêtée, mais en tout cas, je sentais que j'avais une frustration qui commençait avec le fait que les gens ne faisaient pas ce que je leur proposais, en fait. Et la charge de travail associée à un diagnostic, ou une anamnèse de naturopathie, est tellement énorme que les gens ne se rendent pas compte que c'est chronophage. Et du coup, j'ai arrêté de consulter au bout de 6 mois. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivée sur les réseaux sociaux, où je me suis dit, j'ai envie d'avoir un propos qui puisse toucher le plus de monde possible pour que ceux qui ont envie de faire puissent le faire, en sachant que l'accès aujourd'hui à des informations qui soient intéressantes, en tout cas moi je trouvais qu'il y avait toujours des choses qui étaient dites et redites, qui n'étaient pas nouvelles et qui ne prenaient pas en compte toute la personne, c'est-à-dire qu'on voyait souvent que l'alimentation, on voyait souvent que le yoga, on voyait souvent que la santé mentale. Et même moi, je me suis dit, il faut nicher, comme on dit sur les réseaux sociaux. En fait, c'est pas moi du tout. Moi, c'est vraiment le 360, c'est la personne, et je pouvais pas du tout enlever ça. Donc, je me suis dit, je vais donner le plus d'informations possible, au plus de monde possible, et ceux qui veulent, ils iront chercher le plus d'informations qu'ils veulent, et puis ceux qui veulent pas, ben... ils le feront pas, et puis c'est tout.
Donc, ça veut dire que toi, tu disais tout à l'heure que tu avais été du coup touchée par le cancer, c'est ce qu'on avait vu, ce qu'on voit sur ton compte Instagram. Tu t'es pas dit que tu allais faire un compte spécialement pour la prévention contre le cancer du sein. Tu t'es dit, vas-y, je fais tout ce qui me passionne un peu dans le bien-être, la santé mentale, la santé physique. Et est-ce que tu n'as pas peur, bon, même si après on va parler plutôt d'alimentation, mais là juste parce que ça m'intéresse quand même, tu n'as pas peur justement que ton propos soit... certains propos soient dilués. Tu te dis pas ça au quotidien, de dire peut-être que mon propos il est un peu dilué, qu'il faudrait que je, pas que je niche, mais en tout cas que je me dise, j'exploite quand même davantage ce sujet-là.
Oui, je pourrais. Parfois je me le dis, je me le suis dit, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, parce que je me dis, waouh, je pourrais avoir 10 fois plus d'abonnés que j'ai actuellement si je parlais que de perturbateurs endocriniens, ou si je parlais que de cancer du sein, ou si je faisais que des recettes hyper cool et waouh, j'ai jamais vu ça nulle part. Bah en fait, déjà, quand on est sur les réseaux sociaux, on fait du travail un peu gratuit. Enfin, c'est du bénévolat. Hein, on va pas...
Complètement. Nous, on dit qu'on est dans l'associatif. Ouais.
Ma vie, elle se résume pas aux réseaux sociaux. J'ai eu un cancer du sein, donc j'ai aussi une très grande compréhension de ce que je veux pour moi et ce que je ne veux pas, et des choses que je veux faire et ne pas faire. Et je ne me considère pas être une encyclopédie de recettes ou de prévention autour du cancer du sein, quand je sais qu'il y a déjà en plus pas mal de supports qui existent sur Internet. En fait, moi, aujourd'hui, ce que je veux apporter, c'est de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que je vais dire aux gens, est-ce que vous saviez que 80% des cancers du sein sont hormonodépendants ? Les gens vont dire, waouh, c'est énorme. Et après, ils vont aller sur Google pour chercher, en fait. Et moi, c'est ces informations-là que je vais leur donner. Et je partage aussi un petit peu des petits bouts de ma vie, parce que pour moi, c'est important, en fait. Je ne suis pas que Cynthia qui donne des conseils alimentaires, des recettes, savais-tu que dans le micro-ondes, il ne donne pas le cancer, mais en revanche, ça peut transformer la nourriture. C'est pas ça, en fait. Je pense pour beaucoup de personnes, c'est très vite tombé dans le jeu des réseaux sociaux, où après notre personnalité, et en fait tout ce qu'on fait tourne autour de ces réseaux sociaux-là, et on est attendu que sur ça et que pour ça, et honnêtement, on peut être remplacé très très vite. Carrément. Parce que si demain je fais que des recettes, je deviens une personne qui ne fait que des recettes, et moi ça ne m'intéresse pas.
Donc là, si on veut parler plus d'alimentation, parce qu'à la base, quand j'avais dit à Isadora, viens, on va inviter Cynthia pour parler d'alimentation, notamment je voulais parler d'alimentation végétale, puisque toi, c'est ta spécialité. Je voulais savoir déjà, dans un premier temps, comment toi, tu définis aujourd'hui ton régime alimentaire ?
Alors moi, je définis mon régime alimentaire comme étant un régime alimentaire plant-based, qui n'est pas forcément une appellation qu'on trouve en France, que j'ai fait une vidéo YouTube sur ce sujet et... je pense que 90% des personnes qui étaient dans les commentaires ne connaissaient pas ce mot. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent le mot végétalien. Moi, personnellement, c'est pas un mot dans lequel je me retrouve, tout simplement parce que j'ai fait mes études en Angleterre, en anglais, et j'ai du mal avec ce mot végétalien qui, pour moi, est trop... Je sais pas, j'y arrive pas. Donc, pour moi, dans ma tête, en tout cas, c'est plant-based. Dans les prises de parole que je fais sur les réseaux, Je dis vegan parce que c'est beaucoup plus facile, c'est plus court, mais je précise toujours que je mange du miel, que je porte toujours mes anciennes affaires en cuir, voilà. Mais je suis pour la cause des animaux.
Mais du coup, pour toi, c'est quoi la différence, outre le miel? Est-ce que tu fais vraiment une vraie différence entre vegan et plant-based? Ou pour toi, c'est la même chose, juste tu manges du miel et ou est-ce qu'il y a autre chose comme différence?
Alors, c'est ce que j'explique dans cette vidéo YouTube, où j'explique d'ailleurs pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande végane. Et j'explique notamment ce concept de plant-based, qui est, je crois, mon point numéro 5, dans lequel je dis que, pour moi, plant-based, c'est plus que de l'alimentation. C'est vraiment vegan, c'est vraiment un état d'esprit qui est politique, où, voilà, on va défendre, on se dresse contre le capitalisme et l'exploitation des animaux. Pour moi, plant-based, ça revient à une alimentation qui est nutritionnellement parlant intéressante, dans le sens où on revient aux fondamentaux de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on peut être végane et on peut très mal manger. On peut manger du pain toute la journée, on va être végane. Sauf qu'on, équilibrement parlant, ça ne marche pas en fait. Alors que pour moi, une alimentation plant-based, et c'est ce que c'est pas de manger de produits qui sont transformés, c'est avoir une vraie compréhension de d'où viennent ces aliments, et que voilà, c'est des aliments qui viennent de la terre, et c'est surtout une alimentation qui est nutritive, corporellement parlant, qui va nous nourrir le cerveau, qui va nous nourrir le corps, et il y a vraiment plus pour moi une dimension spirituelle. Et je parle pas de religion, je parle vraiment de nutrition, vraiment mentale, consciente, dans le on va vraiment chercher une alimentation qui va nous nourrir en fait le corps et l'esprit, alors que le véganisme, oui, il y a ce côté, ben voilà, on va pas manger de viande, encore une fois, ou de produits animaux, mais on va pas forcément manger équilibré. Et c'est une des raisons pour lesquelles je mange plus de viande transformée végane, au-delà du tofu ou du seitan, peut-être parfois de temps en temps, une fois par mois. C'est parce que en fait, quand j'en mangeais de ces produits-là qui étaient véganes, je ne m'y retrouvais pas, mon corps ne les digérait pas, parce que c'est des choses que je pense que, juste psychologiquement, en fait, j'adhérais plus au concept, et mon corps ne suivait pas. Et il y a énormément de produits aujourd'hui qui sont sur le marché vegan, et c'est très très bien, mais ça ne veut pas dire que c'est bon forcément pour la santé. Et moi, je suis vraiment dans une alimentation qui est santé, une alimentation qui vraiment nourrit mon corps, au-delà d'une alimentation juste, pour poser un mot sur un type de nutrition que je fais, quoi. C'est vraiment plus ça, moi, qui m'intéresse, et c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes contenus. Quand on va, par exemple, en message privé, me demander mais comment je fais pour perdre du poids, est-ce que tu as une recette, une astuce pour perdre mon ventre, j'ai dit moi je ne fais pas en fait ce genre de choses, ça ne marche pas comme ça, parce que j'essaie vraiment de faire prendre conscience, je pense, comme le fait que j'arrive pas à nicher sur mon compte, que en fait c'est un tout, c'est holistique, et c'est pas que l'alimentation, et c'est aussi, voilà, c'est aussi dans la tête, et c'est le rapport qu'on a juste avec la nourriture, quoi.
C'est vrai, parce que en fait, ton compte a pour but de donner des infos et de responsabiliser aussi à ce qu'on soit chacun acteur, et non pas « tiens, je veux perdre du poids, donne-moi la recette miracle », parce que dans tous les cas, ça, tu lui demandes un green smoothie tous les matins, c'est pas ça qui va la faire changer.
Disons que si tu donnais une recette miracle, je commencerais à douter de toi. Tu vois, je me dirais, là, ça commence à devenir gourou, je déteste, moi je fuis ça, mais je sais que des gens ont besoin de ces gourous-là pour se sentir, ils disent, ils ont la réponse à tout, mais moi, si je te voyais faire ça, je t'aurais pas invité sur notre podcast.
Ouais, c'est pas du tout mon truc. Je sais que je pourrais, je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages qui me disent, moi, tout ce que tu dis, je vérifie même plus l'information, je te fais confiance à 100%. J'ai dit, mais c'est extrêmement grave ce que vous me dites, parce que moi, je me considère pas avoir la science infuse sur tout. Je ne connais pas les pathologies, ou en tout cas la réalité individuelle de chaque personne qui me suit. Donc vraiment, faites vos propres recherches. Moi, je peux pas proposer de choses miracles, même si je pense que je pourrais être millionnaire aujourd'hui en disant, oui, buvez du vinaigre tous les matins et tout ira bien. Ça marche pas comme ça. Et du coup, moi, c'est vraiment pour ça, encore une fois, où je veux vraiment prendre toute la personne, avoir ce côté responsabilisant et se monter comprenez que c'est pas qu'une chose. Et là, depuis 2-3 jours, j'arrête pas de recevoir des messages qui me disent vraiment petit à petit, tu m'as fait changer ma nutrition, ma santé mentale, je m'intéresse à plus de choses, je prends plus de temps pour moi, je me rends compte que je faisais des excuses pour ci et ça. Et ça, ça me fait hyper plaisir en fait. Mais c'est vraiment, c'est ce que je dis aux gens, c'est vraiment une démarche de vie. Même moi, je suis pas devenue végane du jour au lendemain, ça m'a pris du temps. Bah, c'est les étapes que j'essaie de leur montrer en fait.
Ouais, et d'ailleurs, depuis quand t'es plant-based et est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que t'as eu une prise de conscience un jour? Est-ce que c'est, comme tu dis, c'est par étapes, mais c'est quoi le point de départ de ce cheminement?
Alors moi, le point de départ, c'est le cancer, concrètement. Mais c'est pas le cancer parce que je suis tombée malade et après je me dis, waouh, il faut que j'enlève tout de mon alimentation. Ça a pas du tout été ça. Moi, je mangeais bien avant de tomber malade. J'étais, même quand je suis tombée malade, on m'a dit... un truc qu'on n'aime pas trop entendre quand on tombe malade, mais je comprends pas, t'es la personne la plus saine parmi nous, tu fais du sport, tu manges bien, machin, c'est toi qui es malade. Oui, bon, bah voilà, ça arrive. La seule chose que je faisais, c'est que je buvais de l'alcool et je mangeais de la viande et du poisson que je ne fais plus aujourd'hui. Et du coup, je jeûnais aussi énormément, enfin énormément, en tout cas, comme je pouvais jeûner, je faisais des jeûnes soit une fois par semaine, soit des jeûnes de 7 jours et tout ça, avant de tomber malade. Et en fait, quand je suis tombée malade, j'ai décidé automatiquement d'enlever en fait toutes les viandes rouges de mon alimentation. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la chimiothérapie, bah, le foie, c'est l'organe qui va tout filtrer automatiquement. Et moi, et j'en parle dans le livre qui sortira en septembre, ma première prise de conscience a été que si mon foie est fatigué, si mon foie ne peut pas filtrer, la chimiothérapie va rester dans mon corps. J'ai besoin que la chimiothérapie sorte le plus vite possible, aussi vite qu'elle est rentrée, j'ai besoin qu'elle sorte et qu'elle s'occupe que des cellules cancéreuses. Encore une fois, je ne suis pas médecin, tout ce que je dis, c'est vraiment mon vécu personnel et c'est ce que j'ai ressenti de faire à ce moment-là pour moi. Et du coup, je me suis dit, si je mange de la viande rouge, si je mange des choses très grasses ou si je mange des plats pré-préparés ou des choses qui ne vont pas avec, qui vont pas aider mon foie, ça marchera pas. Donc, concentre-toi sur la viande blanche, qui à l'époque, c'était ce que je connaissais comme étant le plus sain, en tout cas, des viandes. Concentre-toi. Donc, j'ai fait que poulet et dinde, en fait, pendant toutes mes chimiothérapies et je mangeais des petits poissons. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et puis après, à la fin de ma chimiothérapie, qui s'est relativement bien passée, enfin moi, les docteurs me disaient, waouh, on a l'impression que vous êtes au Club Med. Je suis fatiguée, je n'étais pas du tout au Club Med, mais en tout cas, je l'ai quand même bien vécu comparé à d'autres personnes. J'ai aussi jeûné pendant mes chimiothérapies, ce qui n'était pas recommandé par mon équipe de soins, mais encore une fois, c'est quelque chose que moi, je ressentais de faire sur ce moment-là. Donc je jeûnais pendant 3-4 jours pendant mes chimiothérapies. Et je buvais du bouillon de poulet après mes chimiothérapies pour aider mon estomac, voilà, tout ce qui est passé. Et mon foie, tout s'est très bien passé. Et à la fin de ma chimio, je me suis dit, ah, ça va, en fait, la viande, bah, ça manque pas du tout. Et je vais arrêter le poulet. Et du coup, j'ai arrêté le poulet en juillet 2017. Ça a été vraiment le dernier moment où j'ai mangé du poulet, c'était juillet 2017. Et puis... j'ai mangé que du poisson et des œufs, donc j'étais sur poisson œuf. Et en 2019, juste un peu avant le confinement, je me suis dit, oh, le poisson, allez, j'en ai vraiment plus besoin, plus envie. Je lisais des trucs et des fois, moi, je commandais des sushis, des choses comme ça, et la viande me paraissait je devais trop mastiquer, et j'ai commencé à avoir un peu un espèce de dégoût de choses comme ça. J'ai arrêté un peu automatiquement et les œufs dans la foulée, en fait. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Et après, j'ai fait mon diplôme de nutrition végétale. Et je pense que quand j'ai eu la vraie compréhension de la façon dont je devais vraiment m'alimenter, comment je devais proportionner mon plat, même visuellement, des choses comme ça, ça m'a énormément aidé. Et du coup, j'en ai plus eu besoin. Et donc, depuis 2020, je suis complètement plant-based vegan, quoi.
Et c'est vrai que dans un live, qui m'a donné l'envie de partager un épisode avec toi, c'est justement parce que dans un live que j'avais regardé, qui doit un petit peu dater sur ton compte Instagram, tu parlais du fait que certaines personnes arrêtent d'être plant-based, d'être vegan, l'alimentation végétale, parce qu'ils ne s'étaient pas renseignés sur le sujet avant. Et donc, je trouve ça très, très intéressant ce que tu disais, parce que j'ai rarement entendu ce genre de phrase dans... Pourtant, comme on dit, nous, on est sur les réseaux depuis des années, donc l'alimentation santé végétale, on en a entendu beaucoup, beaucoup. Mais j'ai toujours entendu plutôt « Allez, go vegan, go truc !» et ce que nous, on a ressenti beaucoup par rapport à ce que les gens nous disaient dans les commentaires, c'est « Bah voilà, moi, j'ai tenté, je me suis totalement... j'ai totalement déséquilibré et mon alimentation et mon microbiote et ceci. » Donc toi, qu'est-ce que... comment tu penses qu'il faudrait aborder ce régime alimentaire justement pour, si on décide de se lancer, comment on l'aborde ?
Alors moi déjà, je ne suis pas pro-vegan, pro-plant-based, je ne suis pas pro-aucun régime alimentaire, je suis juste pour un bon équilibre alimentaire de base, donc que ça intègre de la viande ou pas, vraiment moi ça m'importe peu, c'est juste moi que je le fais pas. Et en fait, je pense que oui, les gens se lancent, surtout en France et en Europe, et ça, c'est un point qui est important pour moi, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants nutritionnels que ça demande, sans alors vraiment rechercher, parce qu'on voit énormément de choses sur les réseaux, on voit des repas qui ont l'air sympas, on se dit « waouh, c'est joli, je vais faire ça et tout ». En fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui rentrent dans une alimentation végétale. Et je pense qu'en fait, quand on se lance, et je crois que les études disent, alors je ne sais plus si c'est 50 ou 80%, je crois que c'est 80%, non, c'est 50% des personnes qui deviennent végétales ou véganes repassent à leur alimentation précédente dans les 2 ans après avoir transitionné, parce qu'elles n'y arrivent pas. Moi, ma théorie, et j'avais un petit peu lu dessus, c'est quoi ? C'est que dans des pays français ou européens, on n'est pas assez diversifié dans les propositions alimentaires végétales. C'est-à-dire que nous, on a une culture africaine. Beaucoup de personnes qui sont asiatiques, qui viennent d'Amérique du Sud, ont des cultures aussi où on a un florilège, j'ai envie de dire, de légumes de la terre, de plantes, de fruits, qui n'existe pas en Occident, en fait. Ça n'existe pas. Et quand on va dire à quelqu'un, essayons de véganiser un bœuf bourguignon, essayons de véganiser, j'en sais rien, une choucroute, ça marche pas, en fait, parce qu'il va manquer des aliments essentiels à recréer, en fait, cette assiette végétale parfaite et cette harmonie, cet équilibre alimentaire. Et au début, bah oui, on va dire « Ah ouais, je vais faire pois chiche, machin. » Et en fait, au bout d'un moment, en fait, on a des carences et on n'y arrive pas et ça ne marche pas. Et la richesse qu'on a, nous, en termes de personnes qui venons de cultures, avec encore une fois des fruits et des légumes qui sont extrêmement riches en nutriments qu'on n'a pas en Occident, nous permet de pouvoir avoir un régime alimentaire végétal qui tienne la route. Et c'est pour ça que je présente sur mon compte des produits comme du gombo, comme du plantain, comme du taro, comme des bok choy, voilà, des choses qu'en France, les gens ne mangent pas forcément. Et je pense que c'est énormément ça qui fait défaut aujourd'hui. Je pense que les gens qui disent « oui, j'ai perdu mes cheveux, j'étais très fatiguée » et tout ça, se sont pas forcément ouverts à ces prises de parole-là. Et je l'explique, je fais des ateliers bien-être autour de la naturopathie, de la nutrition et du yoga. Et c'est une chose sur laquelle je suis très, très, très à cheval, parce que je dis, si c'est quelque chose que vous voulez faire, allez-y. Mais sachez qu'il va falloir que vous, appreniez à cuisiner, parce que pour moi, tu ne peux pas devenir plant-based ou végétal sans apprendre à cuisiner, ça n'existe pas, c'est pas possible. 2, apprenez à vous ouvrir aux cultures d'ailleurs, parce que là, vos papilles vont vraiment s'ouvrir. Et 3, mettez des épices. Mettons des épices dans nos vies quand même.
Merci Cynthia.
De toute façon, les 3 thèmes que tu as abordés, c'est les 3 thèmes qu'on dit tout le temps. Cuisiner, même si nous, on n'est pas végétalienne, on promeut quand même une alimentation santé. Une alimentation santé, pour moi, sans cuisiner,
c'est compliqué,
c'est
déjà de base.
C'est quand même un peu difficile. Sans les épices, c'est compliqué. Parce que tout le monde
dit
que
j'aime pas les
courgettes. Parce que moi, je vais manger des courgettes à l'eau. Mais personne t'a obligé.
Oui, parce qu'en plus, les épices, c'est pareil. Comme tu disais tout à l'heure, c'est toi, tu vas parler beaucoup de ces produits qui viennent d'ailleurs. Mais les épices... culturellement en France, ça n'existe pas. En fait, nous, c'est les herbes aromatiques en France. C'est les herbes de Provence. Les herbes aromatiques, c'est bien. C'est super chouette. Mais
Pour relever un plat,
il n'y a pas que ça. Donc c'est vrai que les épices, c'est aussi quelque chose qui vient d'ailleurs, qu'il faut que nous, en France, eh ben, on puisse ajouter à son alimentation. Donc c'est vrai, et c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent aux gens quand ils me disent « Est-ce qu'un jour tu deviendras vegan ?» Chez moi, si demain je suis vegan, c'est sûr que je vais directement regarder tout ce que font les Asiatiques et les Africains.
Le Mexique aussi.
L'Amérique du Sud, parce qu'ils ont quand même énormément ces farines de maïs, les farines de trucs que nous, on n'a pas.
Il y a une richesse nutritionnelle mais incroyable. Et quand on dit manger des épices, je tiens à préciser que ça ne veut pas dire manger pimenté. Le piment sont deux choses différentes. Je ne mange pas de piment. Moi, Cynthia, je ne mange pas de piment. En revanche, je mange épicé, où voilà, ça va être du curry, ça, du curcuma, ça va être des coconuts aminos, ça va être tout ce qu'on peut trouver quand on va sur les marchés, quand c'est coloré, quand on va en vacances à l'étranger. C'est ça, en fait. Et c'est ça que je dis aux gens, rajoutez ça dans votre alimentation et vous verrez que votre tofu, il sera complètement différent, en fait. Ce sera pas un bout de papier blanc qui n'est pas forcément bon pour tout le monde, quoi, en tout cas.
Mais c'est vrai, et je trouve que tu as raison pour ça, parce que le peu de fois où j'ai mangé chez des personnes végétaliennes, je trouvais, tu sais, on disait souvent, ah, c'est vraiment très français. C'est ce côté où ça manque parfois de saveur, de... Et du coup, ça, c'est sûr que ça ne me donne pas envie de go... alors qu'à Paris, le resto... comment ça s'appelle?
Yaya, ça se dit Jaja ou Yaya?
C'est le Jaja.
Le Jaja, ah non, là, il était incroyable.
Incroyable.
Là, tu me fais ça à manger tous les jours, je suis végane dès demain.
Grave.
Là, on a vraiment mangé, mais mangé, quoi.
Ouais, c'est incroyable.
Ouais, et ben ça, c'est l'alimentation Ita, donc l'alimentation des véganes de Jamaïque, qui, vraiment, encore une fois, c'est une alimentation santé. Encore une fois, c'est une alimentation où il n'y a pas de plat pré-préparé, voilà, où tout vient de la terre, où tout est fait avec amour, où il y a un sens derrière chaque aliment et la façon dont on les met ensemble dans l'assiette. Et en fait, c'est ça, l'alimentation, c'est la façon dont elle devrait être, mais c'est un cheminement. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Les gens, ils me disent « Ouais, j'essaye et tout, j'essaie de tout faire, j'y arrive pas. » Mais ne faites pas tout en même temps. Un seul changement par mois, mais c'est déjà très bien. Regardez-moi, j'ai enlevé la viande, j'ai commencé mes chimios, c'était en janvier, jusqu'à juillet, ça veut dire de la viande rouge en tout cas. Donc ça a fait 6-7 mois où j'avais que un aliment qui était différent et j'avais arrêté l'alcool. Donc oui, c'était deux choses. Et après, le poulet, et après, c'est quoi ? C'est 2 ans après, le poisson. Eh, c'est pas un marathon, en fait, c'est ce que je dis toujours. C'est pas un sprint, c'est un marathon où il faut prendre son temps, où il faut prendre du recul aussi, il faut savoir pourquoi on le fait, parce que si on n'a pas vraiment de raison pour le faire, ben en fait, on va arrêter aussi très très vite. Et aussi, il faut se rendre compte que dans ce cheminement-là, souvent, on est tout seul. Donc, il faut aller chercher cette information tout seul. Moi, ma famille, tout le monde mange de la viande, tout le monde mange du poisson, tout le monde mange du fromage. Personne, au début, j'avais des réflexions. Aujourd'hui, ça va très bien, mais c'est un cheminement où on se prend des remarques. Voilà, c'est pas forcément facile. Donc, il faut se demander pourquoi, en fait, j'ai envie de mieux manger.
Oui, c'est personnel.
C'est personnel. Mmh. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens aussi sur les réseaux aujourd'hui ont une pression. Mais même nous, en tant que créatrices de contenu, beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui n'osent plus montrer sur les réseaux de la viande, puisqu'il y a une vraie pression au véganisme sur les réseaux, notamment quand on est créateur de contenu food. Et je pense que beaucoup de gens ont conscience que l'exploitation animale, c'est dégueulasse. Ils ont conscience que l'écologie, le monde va mal. Donc ils se disent, si j'abandonne tout de suite là, demain, je jette tout ce que j'ai dans mon frigo, c'est bon, déjà je fais ma part, quoi. Donc comment peut les rassurer, les gens, pour leur dire « Non, mais attendez, comme tu dis, c'est prenez votre temps. » Oui, mais le monde n'a pas le temps. Le monde, il va au chaos, là, tu vois.
J'ai envie de dire, le monde n'a pas le temps, mais en même temps, ce n'est pas de notre faute si on en est là. Nous, on subit et on essaie de faire le mieux qu'on peut avec les informations qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire de ne pas se mettre la pression, personne n'est parfait. Consommer moins aujourd'hui, c'est déjà mieux que de consommer pareil qu'hier. On nous parle de sobriété, on nous parle de faire des efforts, on fait les efforts qu'on peut au niveau qu'on peut. Moi, j'ai ma réalité dans laquelle je suis une femme célibataire sans enfant. C'est pas la même réalité que quelqu'un qui doit faire les courses pour toute une famille de 4, 5, 6 personnes. Donc, je dis n'importe quoi. Si une famille de 5-6 personnes réduit la viande à une fois par jour au lieu de 3 repas ou 2 repas par jour, c'est déjà énorme, en fait. Donc, qu'on fasse ce qu'on peut au niveau où on le peut. Et je comprends qu'il y a cette pression des réseaux sociaux ou même de ne plus vouloir poster de la viande. Je sais qu'un jour, j'ai liké un créateur de contenu que je suis qui mange de la viande, il fait des trucs et tout. Mais moi, j'adore. Moi, j'adore regarder parce que ça me donne encore plus, ça me donne des idées. Et ce serait utopique de se dire que toute la planète arrête de manger de la viande. Peut-être que dans 100 ans, on y sera là. Peut-être qu'il n'y en aura plus. D'ailleurs, on devra être là. Mais en fait, aujourd'hui, c'est complètement utopique de se dire que tout le monde va arrêter. Donc, non, il faut pouvoir, je pense, parler à tout le monde. Et donc, ça prend du temps et il ne faut pas se culpabiliser parce que sinon, on est dans ce truc d'analyse paralyse et paralysie et on fait plus rien du tout, en fait.
Et tu parlais des épices, tu parlais des richesses que nous avons là. Quand même, on a des richesses, hein, on ne les montre pas beaucoup dans les médias, mais on en a plein.
Ah oui.
Quels sont les aliments que l'on retrouve chaque semaine dans tes courses? Et d'ailleurs, où les fais-tu? Parce que pour trouver du banh plantain et du gombo, tu vas pas peut-être pas spécialement
au
à Monoprix.
Au marché du coin du village, du coin, quoi.
Non. Alors, y en a à grands frais quand même, des bananes plantains.
Nous, c'est vrai qu'on n'en a pas, nous, de grands frais à la campagne.
Ils ont une grosse section exotique à grands frais, mais j'évite quand même de les acheter là-bas. Non, moi, je vais chez le marchand du coin, en tout cas du coin exotique, comme on dit à Paris, voilà, pour acheter mes produits exotiques. Mais après, pour tous les produits qu'on retrouve, alors je ne fais pas mes courses toutes les semaines. Moi, je dois faire mes courses une fois par mois, vraiment. Après, je vais aller racheter des produits frais, des fruits, des légumes, des choses comme ça. Mais j'ai énormément de produits secs. Moi, ma base, c'est les légumineuses. C'est la base de mon alimentation. Même au-delà des fruits et des légumes, c'est les légumineuses. C'est-à-dire que je vais avoir des pois chiches, des haricots noirs, des haricots rouges, des lentilles, des petits pois de toutes les couleurs. Même là, comme je viens d'emménager, j'ai vraiment besoin d'encore plus de bocaux parce que j'ai énormément de choses. Ça, c'est la première chose que vous retrouverez dans toutes mes courses de toutes les semaines, c'est vraiment des légumineuses.
Mais alors attends, je te coupe juste, les légumes secs dont tu parles, beaucoup de gens, dont moi, quand j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation à l'époque, j'entendais beaucoup les gens qui disaient « mettez, ajoutez des légumes secs ». Et j'en ai peut-être un peu trop rajouté à cette époque-là, puisque du coup, j'ai eu vraiment des gros ballonnements, des gros inconforts digestifs. Toi, tu n'as pas d'inconfort digestif? Comment on peut préparer ces légumes secs si on en mange quotidiennement pour qu'on n'ait pas d'inconfort digestif comme moi j'en ai eu?
Alors moi, j'ai jamais eu d'inconfort digestif. Alors je pense que ça vient de deux choses. Déjà, la première, c'est que ma mère nous a toujours cuisiné des légumineuses de quand on était petit. Donc c'est vraiment, ça fait partie de mon alimentation de base. Et en plus, quand je suis devenue plant-based, j'en faisais encore plus parce que j'en mangeais vraiment de toutes les façons, dans les burgers, de l'houmous, des choses comme ça. Et en fait, c'est juste de les faire tremper. Il faut vraiment les faire tremper et si vous les achetez déjà préparés, c'est en manger des petites quantités au début et après ajouter petit à petit. Après, il y a l'astuce de mettre du bicarbonate dans les légumineuses quand elles cuisent pour réduire les ballonnements. Et sinon, le matin aussi, parce qu'il faut préparer votre ventre, si vous avez des problèmes digestifs, c'est introduire encore plus de prébiotiques, donc pas de probiotiques, de prébiotiques dans son alimentation pour permettre une bonne digestion du reste de la journée. Donc si déjà les gens ne font pas ça, par exemple j'ai une vidéo YouTube où j'explique quels sont mes super aliments, et un de mes super aliments, en tout cas super aliments entre guillemets, parce que je ne crois pas trop à ce mot super aliment, mais en tout cas une des choses que je fais tous les jours sans concession, c'est de manger un produit fermenté. Je mange un produit fermenté et je les mange le matin. Je n'ai pas vraiment d'horaire petit déjeuner, dîner, ça n'existe plus pour moi, mais je mange un produit fermenté tous les matins parce que ça prépare en fait mon corps à ce que je vais recevoir, ou je vais prendre du vinaigre que j'ai fait fermenter avec des autres légumes, ou je vais faire mon chou fermenté, ou je vais prendre mes graines germées et je vais juste en attraper une poignée dès le matin et je vais les manger. Tout ça parce que ça va préparer le reste de ma digestion sur la journée. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai des réflexes qui font que je peux manger n'importe quoi. C'est très, 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 très rare que j'ai un mal de ventre ou une indigestion. Franchement, je pense que si j'ai quelque chose comme ça demain, je vais directement aux urgences Et si je ne vais pas aux toilettes au moins une ou deux fois par jour, le lendemain, je pense que je suis déjà en train de prendre rendez-vous chez mon docteur en disant « c'est pas normal, je suis constipée, qu'est-ce qui se passe ?»
C'est hyper intéressant parce que, mais je ne sais pas si toi t'avais suivi, mais à l'époque, il y avait eu sur YouTube toute une vague de véganes, de youtubeuses véganes. Ça a été mais une vague entière et en fait, à la fin, on apprenait, elle nous faisait des vidéos pour dire pourquoi j'ai arrêté d'être végane, et on apprenait que depuis 6 mois, elle nous faisait des vidéos sur le véganisme alors qu'elles étaient plus du tout véganes, parce qu'elle nous disait qu'elles avaient un ventre comme ça, qu'elles étaient complètement ballonnées tout le temps, mais que nous, elles nous ont laissé regarder toutes leurs vidéos sur le... Et donc c'est intéressant que tu dises que toi, tu n'as aucun inconfort digestif, alors que beaucoup de véganes ne le disent pas, mais souffrent d'inconfort digestif. C'est les Américaines qui l'ont plus dit en France, j'ai pas encore entendu de gens en parler, mais aux États-Unis, ça a été il y a, je dirais, 4-5 ans, toute cette vague de toutes ces femmes qui ont dit « en fait, je suis plus végane parce que j'ai un inconfort digestif ».
Nous, en France, ça s'est beaucoup entendu, notamment dans le courant crudivore.
Crudivore, oui, c'est plus... Voilà, ouais, c'est l'extrême de chez l'extrême. Ouais. Donc, c'est intéressant que toi, tu dises que tu souffres pas d'inconfort digestif en mangeant des légumes secs...
Et c'est intéressant parce que nous, on a une amie avec qui on a travaillé pendant 2 ans, qui est naturopathe, qui est ma voisine, qui me disait toujours aussi, si tu ne vas pas à la selle 1 à 2 fois par jour, moi, perso, ça m'inquiète. Et ça avait fait sourire parce qu'à l'époque, quand elle avait dit en podcast, les gens avaient dit, ah bon ?
Mais moi, je ne vais pas depuis 5 jours.
Alors que pour moi, si je ne vais pas au moins une fois, mais
dans la journée, c'est mort. Ça veut dire que ça ne va pas.
Ça va pas. Ça va en plus, moi, j'ai la maladie de Crohn. Donc, pour te dire que moi, je fais très attention à mes selles.
Oui. Ah non, 1 ou 2 fois par jour, c'est minimum.
Ouais, c'est minimum.
C'est minimum, quoi. C'est pour moi, j'ai des gens que j'ai suivis, j'ai des amis, ils me disent, mais des fois, 7 jours, 15 jours. Mais c'est incroyable, vous me dites. C'est-à-dire que c'est des choses que je ne peux pas comprendre. Là, je vais commencer à rechercher. Et après, très vite, on va commencer à avoir des choses, des commonalités qui vont ressortir. Je vais dire, bah oui, en effet, ça va faire que. Donc là, j'ai une amie, elle n'allait pas aux toilettes pendant 15 jours et on a réussi à baisser à 5 jours et puis après 3 jours. Donc 3 jours, là, c'est déjà très bien par rapport à ne pas aller à la selle à 15 jours. Mais l'encombrement et le déplacement de toutes ces maladies dans le corps, moi, je n'arrive même pas à l'imaginer, quoi.
C'est clair. Bah, alors, nous, comme je t'ai coupé, nous, Cynthia, on veut aussi aller aux toilettes 1 à 2 fois par jour. Donc, tu manges dans ton panier de courses, on retrouve des légumes secs,
oui, des produits fermentés.
Des produits fermentés, du coup. Mais non, parce que tu les fais toi-même plus qu'autre chose, non ? Tes produits fermentés ?
Ouais, je les fais ou je les achète aussi. Ouais. C'est les deux, ça peut être les deux. Du coup, il va y avoir kéfir aussi que je vais avoir toutes les semaines. Vraiment. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle super aliments, mais pour moi, qui ne sont pas des super aliments, mais parce que moi, je suis anémiée chronique. Toute ma famille, on est toutes anémiées chroniques avec des règles très abondantes, donc qui rajoutent en plus à cette anémie chronique. Donc, un truc que je dois faire vraiment tous les jours, c'est tout ce qui va être par rapport à mon taux de fer. Donc aujourd'hui, j'ai un taux de fer qui est très bien. Je suis descendue au plus bas, je suis descendue à 5, et c'est quand je mangeais de la viande. Un taux d'hémoglobine à 5, en sachant que les taux normaux sont entre 11 et 13. Et normalement, en dessous de 8, on est hospitalisé en France. Moi, je marchais très bien, tout allait très bien, voilà. Et du coup, c'est tous les jours moringa, ortie et avec du baobab pour la vitamine C. Parce que du coup, taux de fer, pour augmenter le fer dans le moringa et l'ortie, et pour accrocher le fer ou pour augmenter l'assimilation du fer, parce que comme c'est de la nutrition végétale, le fer est moins absorbé que sur un fer hémique, qui est donc le fer de la viande. Le fer végétal, c'est du fer non hémique. Et la vitamine C va permettre d'augmenter l'absorption de ce fer. Donc en général, c'est baobab ou un fruit. Je mange pas tant de fruits que ça, pour être honnête. Je mange beaucoup, beaucoup de légumes, pas tant de fruits que ça. Donc si je mange des fruits, en général, c'est le matin ou quand je suis en voyage. Voilà, beaucoup de fruits, ça va me permettre d'accrocher ce fer. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment la compréhension tous les jours, qu'est-ce que j'ai fait pour mon fer aujourd'hui, et tout l'intérêt aussi de manger énormément de légumineuses. Voilà, c'est ce qu'on retrouve, je pense, c'est les 3 choses qu'on retrouve le plus, et des tisanes, bien sûr, je ne peux pas oublier mes tisanes. Voilà, mes tisanes dans mon alimentation, et ça, c'est vraiment en fonction de comment je me sens le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de boire. Je bois pas tant d'eau que ça. Je vais boire un grand verre d'eau le matin au réveil, un grand verre d'eau avant d'aller me coucher. Et sinon, toute la journée après, c'est des tisanes. un peu variés, avec principalement du gingembre, parce que pareil, ça agit aussi comme prébiotique et c'est très bon pour la digestion. Du curcuma, pour tout ce qui va être un peu inflammation, puisque comme j'ai eu mon cancer, je me dis toujours, bon, on sait jamais, allez, hop, on est préventif et on va prendre du curcuma. Et aussi des plantes adaptogènes, donc avec tout ce qui va être soit des champignons ou soit de la ashwagandha, qu'est-ce que je prends, du chaga, du reishi, voilà, des choses comme ça qui font partie de mon quotidien en fait. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais est-ce que je peux faire une cure de ci, est-ce que je peux faire une cure de ça. Je dis, moi, il n'y a pas cure en fait, ça fait partie de la vie en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça que j'essaye de faire intégrer aux gens, qu'il faut lâcher ce mot de cure, cure de sève de bouleau, cure de... Arrêtez en fait, arrêtez de faire des cures, juste intégrer quelque chose dans votre alimentation qui fait partie de votre équilibre de vie. Comme on va boire du café une ou deux fois tous les jours, en fait moi je vais boire mon chaga, mon reishi tous les jours et ça va être ce qui va me faire du bien. Et il faut savoir que les plantes adaptogènes, c'est environ 90 jours avant qu'elles agissent. Donc ne faites pas des cures de 90 jours, parce que vous allez faire quoi, 90 jours de ça, et après vous allez arrêter et ça va... Non, en fait, c'est vraiment des choses où petit à petit, on commence à les intégrer dans notre rythme de vie et notre corps commence à s'adapter, comme est le but des plantes adaptogènes, et on commence à voir différemment. Et je pense que c'est aussi ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, quand je leur dis ça prend du temps, n'attendez pas des résultats tout de suite maintenant, en fait. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est malheureusement un petit peu le travers de la société dans laquelle on est aujourd'hui, où c'est une surconsommation et une envie d'avoir tout tout de suite maintenant. Et quand ça marche pas, on passe à autre chose. Malheureusement, si c'est de la santé naturelle que vous voulez, du tout tout de suite, ce sera pas avec moi en tout cas.
Non, c'est clair. Mais par exemple, quand tu dis d'intégrer dans votre alimentation, est-ce qu'il y a un truc, enfin peu importe, hein, qu'il soit, qu'est-ce qu'une personne qui voudrait se... pas forcément que faire de l'alimentation végétale, hein, mais juste apprendre à équilibrer son alimentation, à apporter à son corps les bonnes choses. Tu dirais, tiens, commencez par ajouter quoi dans votre assiette ou dans votre alimentation ?
Moi, je dirais des fibres. Donc, encore une fois, les légumineuses. C'est le nutriment qui est oublié, en fait, c'est les fibres. On dit protéines, glucides... c'est quoi l'autre ? Protéines, glucides et...
Lipides, le gras.
Voilà, gras, mais fibres, en fait, c'est plus important que tout, parce que pour moi, les fibres, ça régit tout. Ça régit la digestion, ça régit la santé mentale. Si vous ne mangez pas de fibres, vous allez vraiment avoir un manque d'absorption, même de ce que vous mangez, des autres protéines et autres gras que vous mangez, qui ne va pas être bénéfique sur l'alimentation. Après, je peux dire fibres, mais en fait, que j'invite les gens à faire, c'est surtout à prendre du recul, à se demander quels sont les trois pans importants pour eux dans leur alimentation. Par exemple, moi, ce que je dis souvent, et j'avais fait une vidéo pareil YouTube dessus, où je parle de pour moi, ce qui est important, c'est ma santé mentale, c'est ma digestion et c'est mon anémie. Bon, le sommeil, machin, ok. Mais ça, c'est trois pans qui sont hyper importants. À partir de ce moment-là, ces trois pans qui sont hyper importants et vitaux pour moi, pour que je fonctionne bien tous les jours, il n'y a pas de concession en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois trucs là qui sont les plus importants pour moi. À partir de ce moment là je sais que mon anémie, ça va être moringa, orti, baobab, machin, ce que tu veux, que je l'ai dans ma journée. La santé mentale, ça va être les fibres. Pour moi, c'est les fibres, c'est la santé mentale. Les gens le négligent encore une fois, mais vraiment, fibres, santé mentale et j'ai dit quoi,
digestion.
Et voilà, pareil, digestion, ça va être les prébiotiques. Sans les prébiotiques, la digestion probiotique est oubliée, en fait. Donc, c'est-à-dire, dès le matin, tout de suite, le verre d'eau, petit bout de kéfir, un peu de jus de betterave, une pomme. Faites ce que vous voulez, mais voilà, moi, pour moi, c'est les choses comme ça. Donc, c'est plutôt se demander qu'est-ce que j'ai besoin pour moi, en tant que personne, qu'est-ce qui rentre dans mon quotidien, dans ma semaine, avec mon travail que je fais, machin. Et essayer de trouver, en fait, ces choses-là dont j'ai besoin, qui vont permettre de m'accompagner sur mon quotidien. Et là, on va permettre d'identifier des choses qu'on peut ajouter tout de suite, quoi.
Et moi, j'ai une question, c'est tout à fait personnel. Ortie, moringa, baobab, c'est de la poudre ?
Alors, en France, c'est de la poudre ou des feuilles, si on arrive à m'en ramener. Mmh. Moi, je les prends en tisane, parfois.
D'accord.
Je les prends en tisane parce que j'aime bien juste boire les tisanes. Après, c'est juste que les assimilations sont différentes. Le baobab, oui, en poudre, parce que c'est plus facile de trouver en poudre, encore une fois, quand on est en France. Quand je voyage en Afrique, je le prends sous toutes ses, ses formes. Et l'ortie, pareil, en tisane ou en poudre.
D'accord.
Voilà, ça dépend.
D'accord.
Ça dépend. Ouais. Moi, ce que je fais, parce que ça peut être beaucoup de choses à se souvenir, parce que là, j'ai dit chaga, ortie, moringa, ils vont se dire, mais quoi, mais elle prend 15 milliards de trucs, la meuf, c'est pas possible. Pas du tout, en fait, moi, je fais en amont, en fait, je fais mes mélanges. Donc, comme je sais, par exemple, que l'ortie, le moringa et le baobab m'aident pour mon anémie, bah, en fait, moi, une fois par mois, je me fais un gros bocal où je mélange mes poudres ensemble. Après, j'ai mes mesures. Ça, c'est un petit peu ma petite tombe plus secrète, mais j'ai mes petites mesures et tout. Et après, c'est une cuillère à café dans un smoothie ou des fois, je le prends juste à la cuillère comme ça, ou je me fais... Il y en a qui se font des matcha latte. Moi, je me fais un moringa latte, tu vois. Et du coup, j'ai juste ma cuillère, deux cuillères à café que je prends comme ça, quoi. Donc, je ne vais pas me dire, attends, là, c'est combien de baobab et t'as... Non. Je pense que je dois avoir trois pots où j'ai mes différentes mixtures, donc chaga, reishi, ashwagandha, pour moi c'est des plantes qui vont ensemble. Pareil, j'ai fait ma mixture, je le bois le soir avant d'aller me coucher, c'est ma plante un peu apaisante avant d'aller me coucher, c'est ma tisane du soir, comme les Anglais qui boivent leur thé noir, ben moi ça va être ça mon truc du soir, quoi. Et tout est déjà préfait, pré-préparé, et ça me facilite aussi la tâche. Donc, faut pas non plus que ça devienne en plus en train de se dire waouh, attends, faut que je prenne de la poudre là, faut que je prenne de la tisane, et c'est combien de cuillères et machin et trucs. Non, c'est des choses qui sont déjà préfaites, quoi.
Ah non, c'est super parce que moi, je savais pas, tu vois. Moi, j'ai des. Je suis anémiée depuis des années de façon chronique, mais on me l'a jamais dit, tu vois. On m'a jamais dit, t'as anémie chronique, moi, on me regarde en me disant encore.
T'es toujours anémie. Elle est toujours anémie, celle-là.
Mais depuis toujours. C'est déjà, j'ai toujours eu ce côté-là, encore plus depuis que je suis la maladie de Crohn. Mais bref, et là, tu vois, ce côté, avoir que soit mon pilier l'anémie, bah moi, à chaque fois, c'est le médecin, il va me dire, allez, on te refout encore
une perfusion.
Une perfusion. Ouais. Même si moi, j'ai pas spécialement envie de ça, mais en même temps, je suis tellement à ras des pâquerettes que.
Toi, ton médecin, il te laisse pas le choix. C'est soit ça, soit quoi.
C'est ça.
Il va pas te dire, prends du moringa, lui. Il va dire, il faut vous transfuser du sang, parce que là, sinon, vous allez plus marcher demain. Ouais. Donc, c'est ça.
Non, moi non plus, je vais pas te dire, prends du moringa, forcément, parce que si t'as la maladie de Crohn, en plus d'anémie, là, tu vas avoir un problème d'imperméabilité de l'estomac. Et du coup, tout ce que tu vas prendre, ça va pas être absorbé de la même façon. Donc, c'est d'abord, en fait, pas forcément régler, mais en fait, trouver une compatibilité avec ton imperméabilité, et là ça va passer plus par de l'acide folique, du B9, du B12 pour augmenter l'absorption du fer. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on connaît, encore une fois, parce que moi je fais beaucoup de recherches sur le sujet, donc je pense qu'aujourd'hui je connais tous les différents types d'anémie qui existent et les besoins individuels pour chaque type où il faut augmenter ton B9. Donc par exemple, mange plus de gombo.
On n'en mange jamais, alors que pourtant c'est pas faute d'adorer la
sauce gombo étant le meilleur repas, le seul repas que notre père sait faire.
Mange plus de gombo, et puis dans ton gombo, en plus de remettre du céleri, tu peux mettre des plantes de l'ortie, tu peux mettre les feuilles de moringa directement dedans, tu vois. Ça peut très bien marcher, avec toujours de la vitamine C.
Super bien.
En sachant qu'en plus, en ce moment, on est au printemps, l'ortie, il y en a absolument partout. Et on a dit justement avec Isadora la dernière fois, il y a la semaine dernière, tiens, on va demander à notre amie naturopathe Claudie, on va faire une balade. On voulait faire un réel, tu vois, genre où on va en balade dans la nature, on va voir les orties, on explique aux gens, tiens, qu'est-ce qu'on peut en faire aussi. C'est hyper intéressant. Alors moi, je voudrais juste revenir. C'est Dora, elle est partie sur son truc perso, là, sa consultation privée, ça, c'est autre chose. Elle ne consulte pas en privé, Cynthia. Elle a décidé que tu ferais pas assez ton chemin. Après.
C'est pour ça que je fais une petite entourloupe, tu vois. Voilà. J'en profite.
Si on me pose les questions, j'arrive pas à me retenir non plus.
Mais juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu as toujours dans ton sac de course. C'est très intéressant. Alors du coup, moi, je suis en train de me dire, les gens qui nous écoutent et qui sont pas du tout dans l'alimentation végétale ou qui ont envie d'ajouter un peu plus de végétal dans leur alimentation, ils se disent, mais avec tout ce qu'elle a mis dans son panier de courses, elle mange quoi ? Est-ce que tu peux nous dire, genre, est-ce que t'as tes repas phares du quotidien ? C'est quoi que tu mets ? À quoi ressemble une assiette chez toi du quotidien ?
Alors, une assiette chez moi, c'est une très bonne question. En général, ça va être une base pois chiche ou lentille. Imaginez un petit peu votre assiette, fermez les yeux, voilà. Des pois chiches. du plantain, des bananes plantain faites au air fryer ou au four, parce que je l'ai fait sans huile, énormément de persil, beaucoup de persil, parce que ça me permet d'accrocher le fer aussi. Donc moi je mange pas forcément de salade, ça va être le persil, ça va être ma base. Des poivrons rouges, soit grillés, des choses comme ça. Et je vais rajouter une céréale. Donc, ça va être du quinoa, du fonio, du riz brun, de la tiéké, voilà, parce que ça va me faire ma protéine complète. Et en général, mon plat ressemble à ça. Après, parfois, je mets de la sauce, parfois, je ne mets pas de sauce. Et si je fais une sauce, je fais toujours des sauces sans huile aussi. Donc je vais faire une sauce en général, alors souvent base avec des coconut aminos, vous connaissez
coconut aminos, oui.
Voilà, pour remplacer la sauce soja, et je vais mélanger de l'arachide dedans avec des graines de sésame, je passe tout au mixeur, ça me prend 3 secondes, je mets de l'eau, si j'ai un fruit qui traîne, je vais le rajouter dedans, et puis voilà, et en général, des fois ça donne des trucs super bien, des fois je me dis, oh ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est quand même, j'ai les nutriments dont j'ai besoin, mais en général une assiette ça ressemble à ça. Et parfois des légumes qui sont juste découpés ensemble, mis au four, et j'ai juste m'assurer d'avoir la légumineuse qui va bien avec, et mettre plein de persil. Vraiment, je mange du persil à la poignée, quoi. C'est affolant. Vous pouvez me voir des fois dans la rue avec un bouquet de persil, parce que c'est une bonne source de fer, et ça permet aussi d'avoir de la vitamine C en même temps, donc manger du persil, quoi. Donc voilà, en général, mes assiettes, c'est ça, elles sont très colorées. J'ai toujours de manger l'arc-en-ciel.
Mais j'adore quand tu dis ça sur Instagram, ouais. Manger l'arc-en-ciel, je trouve ça trop vrai, trop beau.
Exactement, manger l'arc-en-ciel, parce que c'est très facile à retenir, c'est aussi un bon jeu pour les enfants. Quand on a, voilà, on apprend aux enfants à diversifier un petit peu son alimentation, à aller vers des choses vers lesquelles on va pas souvent, et explorer vraiment. J'essaie d'explorer. Des fois, voilà, je vais au magasin, ou des fois j'ai des paniers bio à côté de chez moi qui sont 5 euros. Des fois, j'ai des légumes que je fais pas du tout, genre du chou romanesco, des trucs comme ça. Enfin, je me dis, oh, bah, vas-y, c'est top, je vais la tenter. Et puis voilà.
Et là, c'est tes assiettes, c'est le midi et le soir, tu manges des assiettes qui ressemblent à ça?
Ouais, le midi et le soir. Le midi, surtout, c'est l'assiette la plus garnie, celle du midi. Le soir, en général, soit ça va être les restes du midi, soit je vais faire un wrap, et en fait je vais mettre les restes que j'avais dedans. Et le matin, c'est vrai qu'en général je mange pas trop, ça va être vraiment plus le verre d'eau, le smoothie, ou voilà, la poignée de graines germées.
Ah, c'est drôle, parce que tu vois, moi je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, parce que moi le petit déjeuner c'était mon repas préféré. On a toujours dit, sur 6 ans de sur YouTube, j'ai toujours dit le petit déjeuner c'était mon repas préféré, et je pense que je vieillis et que je deviens ma mère, parce que notre mère elle prend pas
la quarantaine approche.
Je me dis, parce que notre mère elle mange pas de petit déjeuner, et moi je me dis toujours, mais incroyable, comment tu peux commencer ta journée. Et en fait je me rends compte que depuis quelques temps je n'ai pas envie, je ne suis pas attirée par le petit déjeuner, c'est quelque chose qui ne me fait, et j'ai l'impression que ça me fait même pas forcément du bien dans mon estomac, tu vois, enfin dans mon appareil digestif, et du coup j'ai plutôt tendance à prendre des smoothies. Et je me dis, comme quoi quand on s'écoute aussi, c'est intéressant de se rendre compte des évolutions, parce que pour moi aujourd'hui prendre un petit déjeuner c'est quelque chose qui est plus aussi naturel que ça l'était avant, où c'était genre impensable de sortir de chez moi sans prendre petit déjeuner, tu vois. Donc c'était
je pense que il y a différentes périodes. Par exemple, si je suis en voyage en Afrique ou des choses comme ça, j'ai plus tendance à prendre un petit déjeuner, parce qu'aussi je me réveille plus tôt, le rythme circadien il est complètement différent. Donc c'est vraiment, encore une fois, cette histoire d'alimentation consciente, d'écouter son corps, ne plus forcément répondre au dictat de petit déjeuner 8 heures, déjeuner midi, goûter 16 heures, dîner, je fais même pas vraiment de goûter, dîner 20 heures devant les informations. Non, en fait, c'est pas comme ça. En fait, notre corps, il marche pas comme ça. C'est quand j'ai faim, en fait, c'est à ce moment-là que je vais manger. Donc, c'est vraiment, vraiment écouter son corps, comprendre. Tester, je fais aussi mon sport le matin, donc moi je le fais à jeun, et voilà, ça me va très très bien. Et après, ouais, si j'ai envie de boire un jus, je vais boire un jus. Si c'est une tisane, je vais faire une tisane. Mais si je pars avec des amis en vacances, ou si je suis invité chez quelqu'un et qu'il me propose un petit déjeuner, soit je dis oui parce que j'ai envie, soit je dis non, et puis fin de l'histoire, quoi. Et tout le monde accepte très bien le truc, mais c'est vraiment faire ce qui est bien pour soi.
C'est super, ouais. Non, c'est hyper intéressant.
Et tu parlais du sport là, que tu faisais le matin. Justement, c'était une question que j'avais en dehors de l'alimentation.
J'allais la poser.
Non, c'est moi qui l'ai posée. C'est quoi ? Est-ce que tu as 3 gestes qui sont non négociables que tu fais tous les jours, des gestes bien-être que tu fais tous les jours pour te sentir bien.
Oui, alors mon premier geste bien-être, c'est le yoga, tous les jours, sans équivoque. Et quand je dis yoga, je ne parle pas forcément de mouvement, je parle simplement de méditation ou de respiration ou de mouvement. Pour moi, ça, c'est du yoga. Parce que bah, quand j'ai eu mon cancer, je n'ai pas pu bouger pendant un moment et j'ai commencé à faire du yoga pendant mon cancer. Et la méditation et la respiration, c'est du yoga. Deuxième geste, c'est prendre une douche. Je sais que ça peut paraître bête, mais en fait, pour moi, c'est vraiment un geste indispensable qui permet de... On néglige, hein, enfin, on minimise en tout cas les bienfaits d'une douche, mais ça fait un bien fou au corps. Ça me permet d'avoir plein d'idées, de reset et d'avoir l'eau qui coule sur le corps. C'est hyper, hyper bien pour la santé. Et le troisième, c'est au moins 10 minutes au soleil. Au moins 10 minutes au soleil, dès le matin, idéalement, quand je me réveille, idéalement dans l'heure où je suis réveillée, au moins 10 minutes au soleil pour avoir la vitamine D, parce que ça permet aussi de réguler, je vous parlais du sommeil tout à l'heure qui est important, bah, pareil, ça va permettre de mieux dormir, et donc si on se met au soleil dès le matin, la vitamine D, le rythme circadien va être régulé, ça permet d'avoir un meilleur sommeil le soir.
Mais t'habites où ? T'habites au Cameroun ?
Non, mais le soleil, même s'il ne fait pas très beau, vous pouvez quand même vous mettre à la fenêtre et avoir un peu de soleil, hein, tout de suite, parce qu'il y a la grisaille. Donc c'est vrai que c'est pas optimal, mais il faut quand même essayer de le trouver là où on peut. Mais c'est là où la douche aussi permet aussi de compenser. Oui. Mais ouais, ça, je dirais que c'est mes trois gestes vraiment indispensables et qui sont tous, au final, liés à une santé mentale. Parce que sans santé mentale, encore une fois, pour moi, on n'a rien du tout.
Je suis d'accord.
Ah non, c'est incroyable parce que moi, par exemple, je marche tous les matins.
Oui.
Et j'avais jamais pensé que, bah, en même temps, ça me fait du bien aussi avec le soleil. Mais je le dis tout le temps, ah, du soleil, c'est tellement incroyable. Quand il y a du soleil, c'est limite le bonheur du matin de se dire... Et ouais. Moi, j'ai un excellent sommeil. Donc, en fait, ça se trouve...
Bah, la tout, marche du tout. Matin. Tu prends aussi des prébiotiques, tu manges des fibres, tu manges des trucs. Il y a un peu de tout, il n'y a pas que,
moi,
que
ça. Moi, limite, c'est le sommeil tellement le plus important dans ma vie.
C'est ça qui est intéressant quand on parle d'alimentation santé, c'est que souvent, les gens pensent qu'en faisant un seul truc, c'est bon, ils ont tout à changer. Alors que parfois, c'est juste des petits gestes les uns à la suite des autres. Parce que tu disais tout à l'heure, tout début d'épisode, que. Les gens parlent d'alimentation en oubliant la santé mentale, en oubliant... Ou sinon, ils parlent que de santé mentale, que d'alimentation, alors que c'est que des maillons d'une même chaîne, en fait.
Mais ça qui est intéressant, c'est de se rendre compte que souvent, quand on parle d'alimentation, végétale ou pas, mais l'alimentation santé, souvent, notamment les femmes, c'est pour parler de perte de poids, d'être bien dans son corps, etc., en oubliant complètement juste le bien-être d'être avec soi-même.
Ah, mais c'est vrai que Cynthia, elle n'en a même pas parlé de ça une seule seconde, c'est vrai, ça ? On a fait un épisode sans parler d'alimentation santé en rapport avec une relation au corps.
C'est vrai que c'est plus tellement le cas maintenant pour nous, mais c'est vrai qu'en effet, c'est souvent ça.
Pour moi, ça va de soi. En fait, pour moi, j'ai aussi complètement accepté que la vie, c'est des saisons, c'est des périodes. Et là, par exemple, je pense que je suis plus lourde que carrément il y a 3 mois, tu vois. Je me dis, bon, tu vois, je faisais mon yoga, hop, j'arrive pas à faire l'équilibre et tout. Oui, je suis plus lourde, mais en fait, quand je regarde ce que j'ai fait à côté, bah, je suis en train d'écrire un livre. Voilà, j'ai moins bougé et c'est pas grave, en fait, tu vois. Mais j'ai continué à faire les choses qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire prendre soin de ma santé mentale et continuer à vivre une vie équilibrée. Et tout n'est pas, en fait, en harmonie H24, 24 heures sur 24, en tout cas en harmonie selon les standards de la société, mais moi je me sens très bien comme ça. Et pour moi, vraiment, le poids, en tout cas manger consciemment, quand on arrive à ce niveau-là où je considère être aujourd'hui, on va accepter complètement qu'on a des fluctuations, on va être en harmonie beaucoup plus souvent dans l'année que pas. Mais ça ne va pas être tout le temps et c'est complètement OK. En fait, il faut complètement se défaire. En tout cas, moi, je me suis défait de cette prise de parole. Et c'est pour ça que quand on me demande, en fait, c'est des prises de parole, pour moi, ça ne m'intéresse même pas de les faire. On me dit, oui, pourquoi tu ne fais pas des recettes ? Parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Des fois, on me pose des questions et j'avoue, je réponds aux gens en privé en disant, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Et si c'est ce que vous voulez, vous pouvez aller sur Google et faire la recherche Google vous-même, parce que moi, en tout cas, c'est boring et je trouve pas que ce soit une valeur ajoutée, en tout cas. C'est pas une valeur ajoutée et c'est pas ce que j'ai envie de concentrer mon énergie Donc voilà.
C'est tout à ton honneur, même si tu aurais pu, là aussi, encore une fois, si tu étais niché dans ça, tu aurais pu être aussi
milliardaire.
Voilà. Parce que quand on
non, mais c'est comme ça que beaucoup de gens se font de l'argent aujourd'hui par rapport au régime. Bah, c'est comme ça que Ducan a fait un tabac et a fait des personnes très déséquilibrées au final. Mais moi, ça m'intéresse pas. Et au final, on en revient toujours à la même chose, qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Puis il y a plein de comptes aujourd'hui qui parlent de régime, de choses comme ça, de l'alimentation cétogène, l'alimentation, c'est quoi au bout d'un moment, en fait, manger et puis c'est tout.
Manger et puis c'est tout. Non, ouais, c'est le titre de cet épisode.
Voilà.
Manger et puis c'est
tout. Clair.
C'est peut-être le titre de ton livre, je sais pas, manger et puis c'est tout.
Non, mais c'est vrai que la question du poids, tu vois, quand nous on a commencé, on parlait beaucoup de. Bah, nous on parlait de rééquilibrage alimentaire, etc. Mais moi, quand j'ai commencé au tout début, c'était en montrant des photos de mon corps en mode regardez comme je suis canon. Et bizarrement, c'est vrai qu'on avait déjà parlé toutes les deux de se dire qu'aujourd'hui, on a pris du poids par rapport à il y a 8 ans, clairement. Mm-hmm. Mais on est plus en harmonie avec qui on est qu'à l'époque où je mettais des selfies en mode « regardez-moi comme je suis bombasse ». Parce que je me trouve toujours bombasse, mais différemment. Mm. Et ça, c'est chouette.
Parce que tu t'es accepté, t'as accepté ton corps et ta façon d'être. C'est très bien.
Mais c'est un chemin et je pense que quand on t'écoute et quand nous on le dit, mais bon, c'est bien aussi quand les invités le disent, c'est de parfois essayer de se détacher de ça pour savoir en effet, comme tu disais tout à l'heure, quels sont les piliers. Pourquoi je veux faire cette alimentation santé ? Et comme disait notre grande sœur qui est diététicienne avec qui on a travaillé pendant diététicienne micronutritionniste, pardon, c'est toujours pareil. Quels sont vos trois piliers ? Si c'est uniquement la perte de poids, posez-vous la question pourquoi. Si c'est uniquement la perte de poids parce que je veux être belle sur les réseaux
ou à la plage,
c'est pas pareil qu'une patiente qui va me dire moi je perds du poids parce que j'arrive pas à courir avec mes enfants, parce que je peux pas profiter des moments avec mes enfants. Donc perdre du poids oui, mais pourquoi, c'est toujours aussi intéressant de se poser la question de la motivation à changer son alimentation aussi.
Oui, et je suis d'accord, beaucoup de gens pensent que quand ils ont un sommeil pourri, ils mettent pas ça non plus sur le coup de l'alimentation forcément. Et toi tu disais tout à l'heure un de tes piliers, tu disais ça aurait pu être le sommeil. C'est vrai que le sommeil, on oublie que ça fait partie aussi intégrante d'une alimentation santé. Il y a le sommeil, c'est un facteur aussi.
Et d'une bonne hygiène de vie.
Donc ouais. C'est intéressant. Dis-nous, Cynthia, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une recette du moment à partager avec nous ? Est-ce qu'il y a un truc que tu fais tout le temps en ce moment, cette saison, en cette période, que tu as envie de partager avec nous et nos auditeurs ?
Une recette du moment ? Bah, en fait, pas forcément. Je suis un peu boring. Hein. J'ai envie de vous dire, dès que... Enfin, comme j'ai compris un petit peu ce qui marchait pour moi, là, ce que je fais depuis 2-3 jours, c'est mon omelette végétale au pois cassé, parce que c'est facile et que je peux juste tout mélanger, en fait.
Comment tu fais ça ?
Voilà. Alors, j'ai fait un réel dessus. Est-ce que vous saviez que vous pouvez faire une omelette végétale avec des pois cassés ? tu fais tremper, en fait, parce que j'ai toujours quelque chose qui trempe la veille, vu que je mange toujours beaucoup de légumineuses. Tu fais tremper des pois cassés, donc ils sont jaunes pour le coup quand ils sont pas entiers, alors que les entiers sont verts. Et tu mélanges avec du kalanamak. Donc, je sais pas si vous connaissez
pas
le kalanamak.
Du tout, pas du tout.
Le kalanamak, c'est du sel qui a avec une odeur de soufre. Du coup, ça a le goût d'œuf. Donc, c'est ce qui remplace l'œuf dans la nutrition végétale. Donc, si vous utilisez du kalanamak un jour, bah, vous arrivez à donner un goût d'œuf et c'est pour ça une omelette végétale. Donc, mettez du kalanamak, de la levure nutritionnelle. Je mets un petit peu de levure chimique pour faire gonfler, un petit peu de maïzena, vos épices que vous voulez. La dernière fois, j'ai rajouté du gombo dedans, un petit peu de poivron. Le tout au mixeur, bam, on passe le tout dans la poêle avec mon petit shaker. Et en 3 minutes, c'est terminé. Et voilà, et on a une belle omelette végétale. Et du coup, on a quoi ? Des fibres dont on a besoin. Si on rajoute son petit persil à côté, hop, c'est parfait. La dernière fois, je l'ai mangé avec des bananes plantain et mon chou fermenté maison.
Super.
Et en 5 minutes, vraiment, ton plat est fait. Et j'ai aucun problème à manger la même chose pendant une semaine.
Oui, bah bienvenue dans notre club. Moi, j'ai... Mais en fait, disons que moi, si c'est quelque chose que je fais peu régulièrement et que je le mange en une fois pendant une semaine,
ça me dérange pas.
Par contre, il faudra pas que la semaine prochaine, tu me le remettes et la semaine. Mais manger pendant une semaine la même chose, ça, je n'ai aucun souci avec ça, au contraire.
Moi, c'est ma fille qui ferait la gueule, donc...
Oui. Nos enfants ne sont pas d'accord avec ça. Elles détestent manger 10 fois les mêmes choses, mais nous, ça nous pose pas de problème.
C'est difficile des enfants à. Enfin, c'est difficile. En tout cas, je pense que si on a pris une conscience plus tard pour après eux aussi les embarquer, c'est difficile. Donc, moi, j'espère un jour, si j'ai des enfants, faire tout de suite. Et là, il n'y a même plus de discussion, quoi. Ça fait partie du rythme de vie.
Je suis d'accord, sauf quand on est parents séparés.
Ah ouais.
Là,
ah
ça devient, la donne devient compliquée parce que moi, par exemple, je mange très peu de viande. J'en mange une fois par semaine dans notre quotidien. On en mange une fois par semaine. Le père, Samuel, si tu passes par là, non, il en consomme énormément. Donc, quand elle est chez lui, en général, je sais qu'elle va passer son temps à manger de la viande, limite matin, midi, soir. Quoi.
Et quand elle rentre,
après, elle boude mon carton de chou-fleur, forcément, parce qu'elle se dit, ouais. Bon, elle est mignonne, elle, mais il n'y a pas de viande dedans.
Mais après, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir, comme on est dans cette alimentation santé bien avant qu'elle soit arrivée, elle, c'est très facile de leur faire manger des légumes, etc.
Des green smoothies, tout ça.
C'est très facile, aucun souci. C'est plus le côté, la variété. Qu'elles ont besoin de variété souvent, alors que moi je pourrais manger pendant une semaine des lasagnes. Quoi.
Aucun souci. Ouais.
Ah ouais. Bon. Non, je comprends la difficulté.
Chacune ses personnalités. Moi je pourrais manger tous les jours la même chose. T'as des personnes qui disent ah mais non, les meal prep, quelle horreur, ça me
dégoûte. Oui, mais après, c'est comme des signes tout à l'heure, c'est la vie, elle change tout. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, c'est des moments de vie parce qu'un jour, dans pas longtemps, elles vont dire qu'elles veulent même plus manger les légumes qu'on leur donne. C'est comme ça, après elles reviendront et ce sera tout le temps comme ça. Donc non, c'est intéressant pour cette omelette végétale. On ira voir ton réel. D'ailleurs, tu peux nous donner tes réseaux sociaux parce que tu as parlé de ta chaîne YouTube, tu as parlé de ton compte Instagram. Si tu veux pour nos auditeurs.
Oui, alors mon compte Instagram, vous pouvez me retrouver sur bycynthiaka sur Instagram. Sur YouTube, c'est Cynthiaka. Je suis aussi sur TikTok. On ne l'a pas abordé, mais c'est le réseau sur lequel j'ai commencé tout en premier.
D'accord.
C'était même pas Instagram. Et ouais, les anciens me reconnaîtront, mais je viens de TikTok à la base. Et c'est Cynthiaka aussi sur TikTok. Et sur LinkedIn, c'est Cynthiaka.
D'accord. Okay. C'est vrai qu'on n'a pas parlé TikTok parce que nous n'y sommes pas du tout.
Et c'est
j'ai même pas l'application sur mon portable, je ne connais même pas, limite, TikTok. Donc c'est vrai que j'en parle jamais, mais c'est vrai.
C'est extrêmement différent, TikTok. C'est pas les... Moi, j'avais vraiment ce besoin de communauté. C'est pour ça que j'ai très vite shifté de TikTok à Instagram. Je trouve que sur TikTok, c'est plus difficile de créer une bonne communauté. Donc, Instagram, je m'y retrouvais plus, notamment par rapport aux stories.
Ouais, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est ce qui revient le plus. Les gens, les TikTokers, ils disent on n'a pas vraiment de communauté. On a des vues, mais pas seulement de gens qui communiquent avec
ça. Exactement.
Donc,
moi, j'avais ce besoin-là.
Eh ben merci beaucoup Cynthia, c'était passionnant. J'ai déjà envie de mettre un milliard de choses en place. Tu sais, à chaque invité, met des choses.
Non, mais attends, moi j'ai juste une dernière question parce que je suis chiante et que j'aime bien poser des questions. C'est juste quand on a parlé là aujourd'hui de ton omelette végétale, etc. Est-ce que tu penses que pour une alimentation végétale, il faille vachement être renseigné et donc passer beaucoup de temps à se documenter pour connaître, tu vois, l'ashwagandha, je sais pas comment on le dit.
Ashwagandha, oui.
Ashwagandha, ok. Mm-hmm. Moringa, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est vraiment important, nécessaire, utile? Ou c'est parce que toi, c'est vraiment ta curiosité qui fait que tu vas plus loin? Voilà, juste cette question.
Et moi, c'est ma curiosité qui fait que je vais plus loin. Vraiment, je tombe dans des... Comme Alice au Pays des Merveilles, dans le trou. Et vraiment, je peux y rester des heures. Après, je pense que c'est important de se renseigner, oui, si c'est important pour nous d'aller vers une, même pas qu'une alimentation végétale, mais en tout cas une alimentation santé, je pense que c'est important de se renseigner et d'identifier les choses qui vont marcher pour soi. Donc on n'a pas besoin, moi oui, je connais plein de plantes, plein de poudres et tout ça, on n'a pas besoin d'avoir tout ça, on peut juste avoir celles qui vont juste marcher pour nous, et donc identifier, bah, encore une fois, quand on reprend ses bases, le fer, voilà, pour moi c'est le moringa et l'ortie, ça s'arrête là, mais il y a 15 milliards de choses dans lesquelles on peut trouver du fer et qui pourraient correspondre à quelqu'un d'autre plus que ces deux choses-là. Les gens qui me disent ils testent le moringa, ils n'aiment pas, très bien, allez sur Google, regardez dans quoi il y a du fer et trouvez les choses que vous aimez déjà dans votre vie, en fait, et peut-être que c'est des choses qui existent déjà, ça pas besoin de venir d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Peut-être que, comme le persil, ça existe et c'est juste dans votre jardin, en fait. Et c'est juste ça. Après, je pense qu'il y a la question de texture, de choses comme ça. C'est encore différent. Il y a des gens qui disent, oui, l'alimentation vegan, c'est que des bouillies, des bouillabaisse. L'impression que, voilà, tu mâches pas. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment après de trouver ce qui marche pour soi. Mais encore une fois, petit à petit, on prend son temps, on intègre, on fait de l'introspection et puis ça va venir.
Merci beaucoup, c'était merci. Juste pour rassurer les personnes, je me doutais de ta réponse, mais juste pour rassurer les personnes qui vont dire « Ah mon Dieu, je dois aller chercher de la ashwagandha, du truc, non, ne cassez pas votre PEL ou... » Petit à petit.
Non, d'ailleurs, je te reprends sur ça, c'est pas cher hein, de manger...
Oui
Non, parce que ça, c'est un truc, c'est une misconception, je sais pas comment on dit en français, c'est une méconception de l'alimentation végétale et l'alimentation des gens là qui mangent des champignons, des trucs comme ça. c'est pas plus cher qu'une alimentation normale, on va manger des plats pré-préparés, c'est juste différent, ou moi en tout cas j'ai enlevé énormément de choses d'avant, ou du coup on va trouver un équilibre financier parce que les choses d'avant ne sont plus là et sont répercutées sur d'autres postes. Mais ça revient pas plus cher, en tout cas moi je le vis pas du tout comme ça. Et c'est, limite j'arrive même à allonger mes courses parce que j'ai beaucoup de produits secs, du coup qui sont très bons pour moi dans la durée, donc non.
C'est vrai.
Pas de PEL à penser, attention.
Non, c'est vrai. Je pensais que les trucs de ashwagandha, c'était cher. Je savais que les légumes secs, c'était pas cher, ça c'est sûr. Mais je me disais, ouais, les trucs un peu... Tu sais, je me dis, les gens, ils vont penser que c'est... Non, parce qu'en fait, surtout, les gens qui vont nous écouter n'ont pas encore cette alimentation végétale, forcément, pas toujours. Et du coup, à vouloir parfois continuer sa même alimentation et rajouter plein de choses qu'on a entendues dans un épisode de podcast, tu te retrouves à avoir acheté trop de trucs. Et si, pour peu que tu as écouté mon épisode de podcast, celui de la copine à côté, j'ai regardé une vidéo YouTube et le compte Instagram d'une autre, j'ai passé une semaine à faire des achats de trucs que finalement, je ne sais même pas par quoi commencer.
Bah, pour vous rassurer, par contre, j'étais complètement comme ça au début. Hein. Je pense que c'est un peu le passage obligé. Comme tout à l'heure, je disais, j'ai arrêté la viande végane. Oui, mais au début, j'étais complètement dans les viandes véganes parce que je savais pas du tout comment faire et tout ça. Et c'est très normal. Et encore une fois, ça fait partie. Je pense que ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais ça a quel goût je sais plus c'était quoi, les germes de blé ou je sais pas quoi, ça a quel goût. Mais en fait, ça a le goût de germes de blé. Moi, je peux pas vous expliquer, en fait. Faut que vous goûtiez. Non, mais c'est ça. C'est malheureux. Il faut que vous goûtiez par vous-même. Et puis, quand vous vous rendez compte que vous aimez pas, bah, allez chercher autre chose qui a les mêmes bienfaits, mais qui est bon pour vous et qui marche pour vous. Mais oui, ça peut. C'est des tests et on va dépenser un peu. Mais au bout de. Bah, moi, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans que je suis dans ça. Bah, au bout d'un moment, maintenant, il y a des trucs. Des fois, les gens ils me disent dans ma tête, je me dis, bon, ok, vas-y, mais. Je sais que dans 2 mois, tu l'utiliseras plus du tout, mais c'est chacun son cheminement, quoi.
Ouais, c'est quoi, il faut laisser à chacun le temps d'explorer et le temps d'essayer, de tester. Combien de trucs on a acheté, nous aussi?
Oh bah, tellement, qui aujourd'hui ne sont pas du tout ancrés dans mon quotidien, et pour autant, il y a des choses qui sont totalement ancrées dans mon quotidien. Donc oui, je comprends. Ouais. Non, mais en tout cas, merci, c'était pour finir. Je trouve que c'est une belle fin, du coup, comme ça... les gens sont déculpabilisés, tu sais, ils se disent « Ah, détente, quand même, je prends ça plutôt plus légèrement, on va dire. » Donc, bah, merci beaucoup, Cynthia, pour ta générosité. C'était vraiment un chouette épisode. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu.
Nous, ça nous a plu, donc c'est déjà le principal. Oui. Et à très bientôt, Cynthia. On se retrouvera sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous, hein. Vraiment, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.